Laudetur Jesus Christus.
En Syrie, les nouvelles autorités font marche arrière après la volonté de changer les programmes scolaires et de les islamiser. Ceux-ci ne bougeront pas, du moins dans un premier temps. La situation se tend au Venezuela alors que la prestation de serment du prochain président aura lieu le 10 janvier prochain. Le principal opposant à Nicolas Maduro, Edmundo González Urrutia, qui a remporté l'élection de juillet dernier, est de retour de son exil en Espagne mais pourrait être arrêté. Nous ferons le point sur cette crise. Dans ce journal, nous entendrons aussi l'archevêque de Brazzaville qui nous parlera de ses espoirs pour son pays lors de cette année nouvelle. Et puis dans notre dossier, direction Haïti ce matin où la violence endémique a provoqué des déplacements massifs de population. Dans cette situation chaotique, le service jésuite des réfugiés œuvre auprès de ces personnes sans ressources. Son directeur est notre invité.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, les chefs de la diplomatie française et allemande sont arrivés à Damas ce vendredi matin. Il s'agit de la première visite de ministres des Affaires étrangères de pays occidentaux auprès des nouvelles autorités de transition syrienne. Les deux ministres doivent s'entretenir avec Ahmad al-Sharaa, le nouvel homme fort du pays. Dans cette nouvelle Syrie où tant est à reconstruire, l'un des enjeux est l'éducation. Le gouvernement transitoire, dominé par le parti islamiste HTC, a dû faire marche arrière hier après une controverse sur la refonte du programme scolaire censé introduire une nouvelle coloration religieuse au cœur du système éducatif. Les explications de Paul Ralifé.
Parmi les principaux changements contenus dans un document de 12 pages publié par le ministère de l'Éducation, figurait le retrait de l'enseignement scientifique sur la théorie de l'évolution et l'amputation de certaines séquences historiques. HTC est accusé de vouloir ménager les sensibilités de la Turquie, son principal allié, en faisant l'impasse sur certaines exactions ottomanes à l'encontre des nationalistes arabes, syriens ou libanais. Les changements prévoyaient également l'introduction de nouveaux lexiques religieux, la défense de Dieu se substituant à la défense de la nation et l'éducation religieuse, islamique ou chrétienne, à l'éducation nationale. Autre exemple, un martyr n'est plus quelqu'un qui meurt en défendant la patrie, mais quelqu'un qui meurt pour Dieu. Ces changements, présentés par les autorités comme des ajustements, ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux avec des appels à manifester. Face aux critiques, HTC a fait marche arrière et a annoncé qu'aucun changement ne sera effectué dans le programme éducatif pendant l'année scolaire en cours, à l'exception de la suppression de toute référence à l'ancien régime. Cette victoire a été saluée par les militants pro-démocratie, mais pour les nouvelles autorités, ce n'est que partie remise. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
La Syrie, où plus de la moitié des enfants en âge d'aller à l'école, soit plus de 3,5 millions d'enfants, sont déscolarisés après 14 années de guerre. Et puis, sachez que pour ce premier mois de l'année 2025, l'intention de prière du pape François est justement dédiée à l'éducation des enfants et des jeunes. Dans un monde où 250 millions d'enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école, le Saint-Père parle de catastrophe éducative en raison des guerres, des migrations, de la pauvreté. Le pape qui demande donc de prier pour que le droit à l'éducation soit garanti pour la construction d'un monde plus humain. L'armée israélienne a intercepté ce matin un missile en provenance du Yémen. Le tir a été intercepté par la défense antiaérienne. Les Houthis, rebelles chiites, soutenus par l'Iran et soutien du Hamas, avaient annoncé déjà la semaine passée avoir lancé deux missiles, le premier contre l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, le second vers une centrale électrique au sud de Jérusalem. Aux États-Unis, l'enquête du FBI se poursuit deux jours après l'attaque à la voiture Bélier qui a tué 14 personnes à la Nouvelle-Orléans. L'auteur, un ancien militaire qui avait fait allégeance au groupe terroriste État islamique. Il semble avoir agi seul, selon la police fédérale. Hier, dans un télégramme envoyé à l'évêque de la Nouvelle-Orléans, le pape François fait part de sa douleur après ce drame, assurant de sa prière les familles endeuillées. Et puis les États-Unis, où ce vendredi marque le premier jour des funérailles nationales de l'ancien président Jimmy Carter. Elles doivent culminer le 9 janvier prochain avec une messe dans la cathédrale de Washington. L'ancien président démocrate et prix Nobel de la paix est mort dimanche dernier à l'âge de 100 ans. À tout juste une semaine de la prestation de serment de Nicolas Maduro pour un troisième mandat, l'opposition vénézuélienne se prépare à une grande manifestation le 10 janvier à Caracas. Les opposants à Maduro contestent le résultat de l'élection présidentielle du 28 juillet dernier et revendiquent la victoire de leur candidat Edmundo González Urrutia. Sous le coup d'un mandat d'arrêt, ce dernier s'était exilé en Espagne, mais il est actuellement en route pour l'Argentine et a promis de revenir dans son pays pour prêter serment le 10 janvier à la place de Nicolas Maduro, Jean-Charles Puzolu.
Oui, Olivier, la situation risque à nouveau de s'embraser vendredi prochain au Venezuela. L'appel de la plateforme de l'opposition à manifester par millions dans tout le pays fait trembler le pouvoir en place. Preuve en est, une récompense de 100 000 $ est promise à quiconque permettra d'arrêter Edmundo González Urrutia s'il remet le pied sur le sol vénézuélien. La coalition de l'opposition revendique avec 67% des voix la victoire de son candidat, tandis que le Conseil national électoral avait déclaré vainqueur Nicolas Maduro au pouvoir depuis 2013. Les manifestations qui avaient éclaté au lendemain de l'élection du 28 juillet ont fait au moins 28 morts et 200 blessés. Edmundo González Urrutia a reçu le soutien des États-Unis, de l'Union européenne et de nombreux pays d'Amérique latine qui ne reconnaissent pas la victoire de Nicolas Maduro. C'est le cas de l'Argentine notamment et de son président Javier Milei qui recevra demain l'opposant vénézuélien. L'Argentine qui a aussi rompu ses relations diplomatiques avec Caracas. Pour la chef de l'opposition, Maria Corina Machado, qui elle vit dans la clandestinité, la fin du gouvernement de Nicolas Maduro est très proche. C'est ce qu'elle écrit sur X, conjointement à son appel à manifester. Le 10 janvier, Nicolas Maduro a lui aussi demandé à ses partisans de descendre dans la rue, accusant l'opposition de vouloir organiser un coup d'État.
Jean-Charles Puzolu. Le chaos politique se poursuit à Séoul, en Corée du Sud. Les enquêteurs qui ont dépêché des policiers pour arrêter le président déchu Yoon Suk-yeol ont été repoussés ce matin par ses gardes du corps. L'ancien président destitué après avoir voulu instaurer la loi martiale dans le pays est retranché dans sa résidence. Au Royaume-Uni, le gouvernement travailliste veut faire de la lutte contre les passeurs l'une de ses priorités en matière migratoire. Après l'abandon du projet de déporter des migrants au Rwanda porté par l'ancien gouvernement conservateur, la question migratoire reste l'un des sujets majeurs dans le pays, alors qu'un nombre record de personnes ont traversé la Manche ces derniers mois. À Londres, Jean Jaffré.
L'immigration demeure le thème le plus vif et présent dans le débat politique, même si les préoccupations majeures des Britanniques sont le coût de la vie, l'accès aux soins et le logement. Dans les derniers jours de décembre, 1776 personnes ont risqué leur vie pour traverser la Manche à bord de 38 embarcations surchargées, malgré un renforcement et une restructuration des moyens de lutte depuis l'arrivée au pouvoir des travaillistes en juillet. Selon les statistiques, le nombre d'arrivants est 25% plus élevé qu'en 2023, avec un nombre record de morts et de disparus. On estime à 150 000 le nombre de personnes qui, au cours des 7 dernières années, ont débarqué sur les côtes du Royaume-Uni, qui compte 60 millions d'habitants. La plupart des migrants viennent d'Afghanistan, du Soudan ou de l'Érythrée, souvent pour rejoindre des membres de leur famille. Le PDG de l'ONG Refugee Council, Enver Salomon, estime que ces dernières mesures n'empêcheront pas de nouvelles tragédies en mer. Il demande au gouvernement de mettre en place des voies légales et sûres dès cette année et de souligner que le Royaume-Uni a le devoir d'appliquer les conventions de Genève sur les réfugiés et le droit d'asile, à la création desquelles il participa activement. Selon l'ONG, l'immigration est nécessaire et positive. Londres, Jean Jaffré, Radio Vatican.
Et outre la Manche, la Méditerranée reste un lieu où les migrants meurent en trop grand nombre. C'est ce que déplore une nouvelle fois l'UNICEF. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le nombre de personnes décédées au cours de l'année 2024 a dépassé les 2200, avec près de 1700 vies perdues sur la seule route de la Méditerranée centrale. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les combats se poursuivent entre l'armée et la milice du M23, une milice soutenue par le Rwanda. Le désarmement de ce groupe armé est au cœur d'une mission de médiation entre les deux voisins menée par l'Angola, mais pour l'heure, les discussions piétinent. Plus à l'ouest, au Congo-Brazzaville, c'est une année pleine de défis qui s'ouvrent. Entre difficultés économiques et sociales et enjeux pastoraux, il y a fort à faire en 2025. L'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manakima, nous fait part de ses espoirs pour cette année nouvelle.
J'espère que la morosité économico-financière actuelle se dissipera et que nous allons repartir avec un élan de conscience humaine plus aiguisé. Les chrétiens le savent, car dit saint Paul, le développement est le nouveau nom de la paix. Je voulais dire que si nous voulons la paix dans la sous-région et au Congo-Brazzaville, il nous faut retrouver et relancer les chemins du développement. Car, qu'on le veuille ou non, ventre affamé n'a point d'oreille. Il n'y a donc pas d'horizon miracle, il n'y a que les retombées, les conséquences de ce que nous faisons aujourd'hui qui détermine le lendemain. Enfin, concernant mon souhait, je dirais que pour la sous-région d'Afrique centrale, c'est ne pas en arriver à la dévaluation du franc CFA. Cela écraserait l'immense majorité des démunis et cela creuserait encore et encore le fossé entre riches et pauvres et accélérerait, je dirais, la paupérisation de nos pays. De toutes les façons, hein, je vais vous dire, hein, et je le dis clairement, les solutions du FMI n'ont que rarement redressé les États.
L'archevêque de Brazzaville interrogé par Fabrice Baguen-Dekere. Depuis de nombreuses années, Haïti est en proie à la violence des gangs armés et à la corruption des élites politiques. Nombre d'Haïtiens ont été forcés de quitter la capitale, Port-au-Prince, dont 80% des quartiers sont aux mains des bandes criminelles. Plus de 700 000 personnes, dont plus de la moitié sont des enfants, sont aujourd'hui déplacées à l'intérieur d'Haïti, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Basée sur la frontière avec la République dominicaine, à Ouanaminthe, le père Germain Clairvaux dirige le service jésuite pour les réfugiés en Haïti. Il revient sur la situation de ces personnes migrantes, souvent sans ressources, et de ce que l'Église haïtienne fait pour elles. On l'écoute.
Les gens, en traversant, ils ne savent pas qu'est-ce qui les attend. Et parfois, ils passent 4, 5, 6 jours en prison sans nourriture et on les met dans des camions où on devrait mettre 40 personnes ou une centaine de personnes. Les gens doivent voyager debout et quand ils arrivent à la frontière, on vient vider les gens comme des sardines, comme des détritus sur la frontière. On est toujours là en permanence. Nous avons des jeunes qui font du volontariat avec nous, qui sont en permanence sur la frontière, qui attendent quand un camion arrive. Le camion peut arriver le matin ou le soir. Et puis ces jeunes-là les accompagnent. Parfois, il y a des gens qui arrivent avec beaucoup de douleurs, beaucoup de blessures. Les autorités ou bien militaires dominicains ou les agents d'immigration, ils pillent les gens. Ils volent leur téléphone. La fois dernière, un jeune monsieur qui est arrivé. On a tellement battu ce monsieur, on a tellement maltraité ce monsieur. Il ne pouvait plus se lever le matin. On a dit l'aider à se lever, se laver et après le conduire à l'hôpital. Donc ça veut dire que c'est des situations assez tristes et humiliantes pour l'Haïtien.
Les gens arrivent, ils n'ont pas de parents sur place parce que les gens proviennent de tous les coins du pays. Donc ils n'ont pas où dormir, ils n'ont pas la nourriture.
En plus des migrants refoulés de République dominicaine, est-ce que vous accueillez des migrants internes, des réfugiés qui viennent d'autres endroits d'Haïti?
Comme vous savez, il y a beaucoup de violence à Port-au-Prince. Il y a aussi beaucoup de gens qui nous arrivent à la frontière, et spécialement à Ouanaminthe, qui viennent de Port-au-Prince ou un peu partout de la Tibonite. On est en train de voir comment accompagner les gens. Mais d'abord, on est en train de récupérer des données parce que les gens continuent de venir. Donc la population augmente constamment et c'est une population qu'on a découvert qui est extrêmement pauvre, qui avait leur maison, qui avait leurs enfants, qui doivent laisser Port-au-Prince où il y a des foyers de violence. Les gens viennent et ils cherchent refuge. Ils cherchent un lieu où ils peuvent respirer, peuvent continuer à vivre. Comment on peut accompagner les gens en leur cherchant un petit travail, en les aidant à trouver un petit peu d'argent pour qu'ils puissent faire un petit commerce? Mais ça va lentement. Là où nous sommes, c'est très hospitalier, mais cela ne veut pas dire que la ville peut accueillir toutes sortes de monde qui arrive, dans le sens qu'il n'y a pas un problème de logement. Donc si les gens n'ont pas de famille, s'ils viennent, c'est difficile. Il y a des gens qui sont dans la rue aussi.
Comment faites-vous dans votre centre à Ouanaminthe pour accueillir toutes ces personnes?
Nous autres, on a un centre qui accueille des gens. On leur donne une sorte de kit sanitaire pour qu'ils se lavent, se brossent, et puis des vêtements, la nourriture. Et puis, pour les gens qui vont un peu très loin, s'ils doivent passer la nuit, ils dorment dans notre centre. Et le lendemain, si on a les moyens pour leur donner un peu d'argent pour le transport, on les aide à parler avec leurs proches. Nous avons aussi des projets qui facilitent que les gens aient des documentations de manière gratuite. Ce qui fait que avoir ces documents, ça veut dire que les gens commencent à avoir possibilité de se régulariser. Donc, c'est ce que nous faisons au jour le jour. Et puis, bon, nous accompagnons aussi des paysans à travers des projets que nous avons dans les montagnes ou bien dans les lieux un peu reculés. Pourquoi? Parce que ces gens ont tendance à sortir de ces lieux, à migrer à cause des changements climatiques ou d'autres choses, que d'autres situations compliquées, que de violence ou quoi que ce soit.
Quelle est, selon vous, la mission de l'Église? Comment la comprenez-vous dans une telle situation?
C'est d'être là, de faire ce qu'on peut à la lumière de l'évangile de Matthieu 25. Chaque fois que vous avez fait ceci, cela pour l'un des plus petits, c'est pour moi que vous l'avez fait. Et ce que nous vivons maintenant, c'est dans l'ordre de la progression vers la déchéance, la déshumanisation. Nous continuons de faire appel à la conscience humaine, et que ce soit la conscience des autorités dominicaines, aux agences internationales. Je crois que chaque pays a le droit de se donner des lois pour régulariser les migrants ou les gens qui entrent chez eux ou sortent. Mais il y a une manière de le faire. Ce qui se fait là, c'est n'est plus dans la ligne des droits humains et dans la ligne du respect de la dignité de la personne humaine.
Voilà, les migrants et les déplacés internes en Haïti à la une de notre dossier ce matin. Interrogé par Jean-Benoît Harel, le père Germain Clairvaux, directeur du service jésuite pour les réfugiés en Haïti, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité, votre écoute. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 13h en direct de Rome. Et n'oubliez pas d'ici là toutes nos informations sur notre site internet vaticannews.va. Je vous souhaite une excellente journée.